You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Le journal et les grands titres de ce dimanche. En Australie, la campagne des élections fédérales. Le Premier ministre est au Queensland avec une promesse de réduire le taux de chômage chez les jeunes. 22e acte des Gilets jaunes en France hier. Ils étaient quelque 31 000 manifestants. Un groupe de parlementaires britanniques veut une priorité d'extradition vers la Suède pour Julian Assange de Wikileaks. En Australie, le ministre des Finances, Matthias Cormann, se dit confiant qu'un gouvernement de coalition réélu atteindrait son nouvel objectif en matière d'emploi pour les jeunes. Le Premier ministre Scott Morrison fait campagne dans le Queensland ce dimanche, promettant de créer un quart de million d'emplois pour les jeunes Australiens de 15 à 24 ans au cours des cinq prochaines années. Matthias Cormann a déclaré sur Sky News que la coalition avait tenu ses promesses de création d'emplois.
We have the plan for a stronger economy, for more jobs, and indeed a plan to drive the unemployment rate down further. And, you know, we absolutely stand by the commitment that we are making of 1.25 million new jobs over the next 5 years, including 250,000 new jobs for young people aged between 15 and 24. Look at our track record.
Voilà, le ministre Matthias Cormann sur Sky News. Manifestation à travers le pays ce dimanche pour demander au gouvernement fédéral de fermer les centres de rétention offshore de Manus Island et de Nauru. Les manifestants demandent que les réfugiés soient emmenés en Australie. Chris Breen est un des organisateurs des marches.
People are over the cruelty to people here and to refugees. I mean, the rally today is calling for a fair and welcoming society. And that is a message that resonates deeply amongst people. And I think people do show solidarity with refugees as people who are just like us. And I think people want them to be treated well as they want, you know, themselves to be treated well.
22e acte des Gilets jaunes hier en France. Quelque 31 000 manifestants ont manifesté à travers le pays. Ils étaient 22 300 il y a une semaine. Ils attendent aussi le 20 avril pour les annonces du président Emmanuel Macron pour boucler le grand débat national. Reportage de Laurence Théo à Paris pour Radio France Internationale.
Le gilet jaune recouvre une blouse blanche. Florence Gaillard est infirmière et militante à la CGT. Pour elle, la loi dite anti-casseur entrave la liberté de manifester.
On n'a quand même pas le droit de manifester où on veut, comme on veut. On est menacé rien que dans le métro avec un gilet jaune. On peut avoir une amende de 135 euros. Mon ami était à Gare de l'Est. Là, Bernard, il se baladait à Gare de l'Est. Il a failli avoir une amende de 135 euros, alors qu'il n'y a qu'aux Champs-Élysées, normalement, que le périmètre est interdit. On est dans un abus des dérives, de répression illégitime, inadmissible. Donc oui, cette loi anti-casseur, elle n'a pas lieu d'être en réalité.
Silhouette athlétique, cheveux blonds et bouriffés qui contrastent avec une barbe soignée, Guillaume Rémy est membre d'Amnesty International. Il n'hésite pas à parler de répression policière.
On a nos chiens de berger et du coup, presque, on nous dit « vous manifestez telle heure à telle heure ». De telle et telle manière, on regarde dans nos sacs ce qu'il y a. Et du coup, en fait, ça, ce n'est que des systèmes pour casser les mobilisations, casser les oppositions.
Ces deux manifestants se distinguent par le fait que la première est gilet jaune et le second ne l'est pas. Mais tous deux ont un point commun. Ils seront présents samedi prochain pour l'acte 23 du mouvement.
Laurence Théo pour RFI. Wikileaks a réagi à l'arrestation de Julian Assange en publiant des informations sensibles pour de nombreux pays. Explication Romain Le Maresquier pour RFI.
La rumeur n'a pas tardé à être confirmée sur les réseaux sociaux. Oui, Wikileaks a bien ouvert tous ses fichiers contenant de très nombreuses informations sensibles pour un grand nombre de pays. 48 heures après l'arrestation de son fondateur, Julian Assange, qui était réfugié depuis 2012 dans l'ambassade d'Équateur à Londres, le site de l'organisation a rendu public un lien que tous les internautes du monde entier peuvent consulter. Et forcément, de nombreux services de renseignement vont se ruer sur cette mine d'or qui pourrait contenir de véritables trésors, en l'occurrence des secrets d'État. Des informations classées secret défense qui pourraient s'avérer gênantes. Les services de renseignement aux États-Unis qui réclament l'extradition de Julian Assange vont certainement scruter à la loupe des heures durant ces données considérables qui, selon certains internautes qui se réclament de cette organisation, pourraient conduire des gens derrière les barreaux. Les thèmes abordés par les dossiers rendus publics sont très larges. La guerre en Afghanistan, l'Iran, le Kenya, la Syrie, le Kosovo, le FBI, la CIA ou encore l'armée américaine sont notamment visés. Pour rappel, Wikileaks a été fondé en 2006 et depuis sa création, cette organisation a rendu public des affaires de corruption, d'espionnage ou encore de violation des droits de l'homme concernant des dizaines de pays à travers le monde.
Romain Le Maresquier pour RFI. 70 députés britanniques font appel au gouvernement de donner la priorité à l'extradition de Julian Assange vers la Suède si la prosecution suédoise rouvre les enquêtes d'allégations de viol et d'agression sexuelle contre lui. Le chef de l'opposition en Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn, déclare qu'il ferait tout le nécessaire pour extrader Julian Assange vers la Suède.
If there are allegations which Julian Assange needs to answer of sexual issues, sexual attacks that may or may not have taken place in Sweden, then it's a matter for the courts to decide, but I do think he should answer those questions. My objection was to his extradition to the United States because I do believe that WikiLeaks told us the truth about what was actually happening in Afghanistan and in Iraq.
Le chef des travaillistes en Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn. Le Soudan et le conseil militaire du pays déclarent qu'un gouvernement civil sera mis en place après consultation avec les partis d'opposition. Pour rappel, le président Omar El-Béchir a été destitué jeudi dernier après des semaines de manifestations contre la hausse des prix alimentaires, un taux de chômage élevé et de répression par son régime après quelques 30 ans au pouvoir. En Algérie, les magistrats ont manifesté devant le ministère de la Justice à Alger. La cause, ils refusent de superviser l'élection présidentielle prévue en juillet prochain. Explication de Amine Safar pour RFI.
Avocats et magistrats ne sont pas à leur coup d'essai. Depuis le début de la mobilisation populaire contre le pouvoir, ils ont manifesté à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, ils semblent en mesure d'exercer une pression sur le système. Sans eux, difficile d'organiser un scrutin. En principe, leur mission est de veiller au bon déroulement du vote. Leur revendication, une justice libre et indépendante. Ces juges contestataires sont en rupture avec le syndicat des magistrats algériens proche du pouvoir, mais ils affirment être majoritaires au sein de leur mouvement. De leur côté, les avocats haussent également le ton. La répression des manifestants pacifiques par les forces de sécurité doit cesser immédiatement. Une injonction qui fait suite aux troubles qui ont émaillé le grand rassemblement du vendredi à Alger. Les avocats exigent aussi le retrait immédiat du canon à son utilisé par la police pour disperser les foules. Cet outil de répression cause des dégâts sur la santé et c'est inacceptable, expliquent les robes noires.
Amine Safar pour RFI. 64 migrants africains bloqués en mer pendant près de deux semaines ont été transférés à Malte. Le gouvernement maltais a annoncé la conclusion d'un accord pour répartir les migrants entre quatre pays européens, l'Allemagne, la France, le Portugal et le Luxembourg. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 356 personnes sont mortes ou ont disparu en traversant la Méditerranée cette année. Des raids aériens israéliens contre une position militaire dans le centre de la Syrie. Plusieurs bâtiments ont été détruits, d'après l'agence officielle syrienne Sana. L'Observatoire syrien des droits de l'homme mentionne 17 blessés de la mort de combattants iraniens. Le Fonds monétaire international dresse un portrait sombre des prévisions économiques pour le Venezuela. Explication David Bachet, RFI.
Le tableau économique du Venezuela, brossé par le FMI, est des plus sombres. Et les coupures d'électricité à répétition que connaît le pays n'en sont pas la cause, mais l'un des nombreux symptômes. Alejandro Werner, directeur du FMI pour l'Amérique latine, parle d'une implosion économique plus importante que ce qui avait été anticipé. Le FMI prévoit cette année une chute du produit intérieur brut vertigineuse, moins 25%, un taux de chômage de plus de 44%, presque la moitié des actifs, et une inflation qui n'en finit plus de battre des records, avec des prix en augmentation de 10 millions de pourcents. La production pétrolière pourrait encore chuter à 600 000 barils par jour. Le Venezuela avait déjà connu en 2018 sa plus mauvaise production depuis les années 90. Or, le pétrole est la principale source de revenus du pays. Le système économique est détruit, juge le directeur du FMI pour l'Amérique latine, qui pointe également un problème de production, de distribution des biens et bien sûr, d'endettement. Selon lui, le Venezuela mettra au moins une décennie à s'en remettre.
David Bachet pour RFI. En Serbie, la contestation contre le président Vučić depuis quelques semaines. Un mouvement populaire, mais pacifique, selon le correspondant de RFI en Serbie, Laurent Rouy.
Depuis 20 semaines consécutives ont lieu dans toute la Serbie des manifestations contre le régime du président Aleksandar Vučić. Mais cette fois, la mobilisation prend une autre forme, puisque l'opposition avait appelé à un unique grand rassemblement dans la capitale. Sur la tribune, des orateurs réclament la démission du président, la liberté des médias ou encore des élections libres. La foule est très importante, l'ambiance bon enfant. Pourtant, à en croire le gouvernement, la situation est très différente. Pour le ministre de l'Intérieur, par exemple, la police protège le Parlement pour, dit-il, empêcher que les manifestants ne l'incendient et ne le pillent. Dans la mairie, l'adjoint au maire, allié du pouvoir, a qualifié de fasciste les leaders de l'opposition et reste dans la mairie pour, affirme-t-il, empêcher tout assaut. On assiste donc d'un côté à un mouvement populaire important mais pacifique et de l'autre à un pouvoir qui présente ce même mouvement comme extrémiste et ultra-violent. Dans ces conditions, difficile d'imaginer le moindre compromis ou une sortie de crise.
Laurent Rouy pour RFI. Aux États-Unis, le lancement officiel de la campagne présidentielle du sénateur démocrate Cory Booker hier. Cory Booker, afro-américain, fait partie des outsiders pour la primaire de l'an prochain. Reportage Grégoire Portier pour RFI.
Ce samedi, la foule a mis du temps à arriver. L'événement a démarré avec du retard, mais Cory Booker s'est définitivement lancé dans la grande course de la primaire démocrate. Le sénateur, 49 ans, a évidemment choisi de jouer à domicile. Il le répète souvent, il a au moins autant appris en grandissant dans les rues du New Jersey qu'à la prestigieuse université de Stanford. Il s'est ensuite fait un nom en dirigeant Newark, petite ville connue pour son aéroport juste en face de New York. Son bilan peut y être contrasté, mais aujourd'hui, il lui faut surtout proposer un message plus vaste. Son credo, la justice pour tous, qu'elle soit sociale, économique ou environnementale.
Nous ne pouvons pas attendre, alors que cette administration jette les enfants fuyant la violence dans des cages, interdit aux musulmans d'entrer dans le pays fondé sur la liberté religieuse et empêche les braves Américains transgenres de servir le pays qu'ils aiment.
On se doutait depuis longtemps que l'afro-américain viserait la Maison-Blanche, mais pour le moment, il n'a pas réussi à s'imposer parmi la quinzaine de candidats déclarés. Alors que le Parti démocrate hésite sur sa nouvelle identité, à gauche toute ou au contraire très centriste, Cory Booker affiche lui une volonté de rassemblement de toutes les tendances, mais du coup, son discours ne marque pas encore les esprits. Et certains lui reprochent surtout ses liens anciens avec la Silicon Valley, le secteur pharmaceutique et Wall Street.
Grégoire Portier pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 24 degrés. Adélaïde 28, Melbourne 22, Hobart 17, Canberra 21, Sydney 33, Brisbane 27, Cairns 29, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. En Australie, la campagne des élections fédérales. Le Premier ministre est au Queensland. Le chef de l'opposition fait campagne à Sydney ce dimanche. 22e acte des Gilets jaunes en France. Hier, ils étaient quelque 31 000 manifestants. Et puis, un groupe de parlementaires britanniques veut une priorité d'extradition vers la Suède pour Julian Assange de Wikileaks. Fin du journal. Merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
sbs.com.au